Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Définir la couleur n'est pas un exercice facile. La manière de l'appréhender varie d'un continent à l'autre et ses définitions varient au cours des siècles. Comment la couleur s'inscrit-elle dans le champ de notre mémoire ? Le dernier livre de l'historien Michel Pastoureau, « Les couleurs de nos souvenirs », propose une surprenante invitation à ses lecteurs, un journal chromatique de 1950 à 2010, mêlé de souvenirs personnels, de propos, de notes et de réflexions sur un sujet dont il a été en France le pionnier, celui de l'histoire des couleurs. Cette dernière expérience, très originale dans sa démarche, lui permet de revisiter l'histoire récente des couleurs en France et en Europe depuis les années 80. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir parler aux auditeurs de Canal Academy de ce dernier livre, « Les couleurs de nos souvenirs », publié au Seuil en septembre 2010 et pour lequel vous avez reçu le prix Médicis de l'essai. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes né en 1947 et vous avez été directeur d'études à l'EPHE. Et pendant 28 ans, votre enseignement et vos recherches ont été partagés pour moitié entre l'histoire des couleurs et l'histoire des animaux. Le public vous connaît effectivement pour trois domaines que vous explorez régulièrement, l'héraldique, l'étude des couleurs et les bestiaires. Alors à partir des années 80, vous vous consacrez beaucoup à l'histoire des couleurs et médiéviste, vous n'hésitez pas à sortir du cadre et à parcourir l'histoire de manière globale et symbolique. D'où vous vient, Michel Pastoureau, cette passion pour l'étude des couleurs ? Ce qui vous a valu deux grands livres remarqués, hein, Le Bleu, l'histoire du bleu, histoire d'une couleur, et Noir, histoire d'une couleur en 2008.
Oui, cette passion ou cet attrait pour les couleurs vient sans doute de l'enfance et même de la petite enfance. J'appartiens à une famille dans laquelle il y avait plusieurs artistes peintres, trois de mes grands-oncles, et mon père avait également des amis qui étaient artistes peintres. Donc tout jeune, j'ai fréquenté ces endroits merveilleux que sont les ateliers d'artistes. Pour un jeune enfant, c'est un terrain de jeu exceptionnel où l'on peut faire des bêtises et même des cochonneries avec toutes sortes de couleurs en poudre, en tube, en godet. Donc je pense que ça vient d'abord de là et ensuite du fait que chez moi, on cultivait l'amour de la peinture artistique, on m'a emmené très tôt au musée. Donc j'ai été attiré sans doute, jeune enfant, par tout le monde des couleurs, renforcé sans doute par le fait que ma mère était pharmacienne et que j'ai grandi dans une pharmacie, autre terrain de jeu pour un jeune enfant. Et dans la pharmacie, les codes de couleurs jouent un rôle très important, aussi bien dans les années 50 qu'aujourd'hui.
Une fascination qui vous est venue très tôt, en fait, dès l'enfance.
Je pense, oui, quand je regarde en arrière et que je m'interroge, cette passion est vraiment là à l'adolescence. En outre, j'en ai fait mes premiers travaux d'étudiant, puis de jeune chercheur, mais sans doute cela remonte plus loin, vers la petite enfance.
Alors, Michel Pastoureau, vous avez placé en exergue une très belle citation que je ne résiste pas à lire à l'antenne. « Avant que ne s'évanouissent dans l'éternité du silence les couleurs de nos souvenirs ». C'est Gérard de Nerval, c'est une phrase d'un poète à un peintre. Michel Pastoureau, qui parle au mieux des couleurs au regard des recherches que vous avez effectuées depuis 40 ans sur ce sujet ?
La couleur, c'est par essence un terrain complètement pluri- et transdisciplinaire. Donc l'historien des couleurs doit interroger toutes sortes de documents et donner la parole, bien sûr, aux peintres, mais aussi aux teinturiers, aux poètes, aux musiciens, à toutes sortes de professions qui manipulent les couleurs, et puis aux amateurs ou aux consommateurs. Mais un poète comme Gérard de Nerval, qui en outre a une sensibilité extrêmement picturale, naturellement a attiré mon attention, et c'est mon poète préféré pour ne rien vous cacher, Donc j'ai souhaité lui donner la parole pour en faire le titre de ce livre. Ça n'est pas un vers d'ailleurs, cet exergue, c'est une phrase tirée d'une lettre qu'il écrit à un ami peintre qui a reçu une commande du roi Louis-Philippe pour le musée de Versailles, un tableau d'une scène de l'histoire de France, et il hésite à accepter. Et Nerval l'encourage et lui dit donc « avant que ne disparaissent dans l'éternité du silence les couleurs mêmes de nos souvenirs ».
Très belle phrase. Mais qu'est-ce que la couleur, Michel Pastoureau ?
La couleur est quelque chose qu'il est presque impossible à définir. Je m'en aperçois quand je participe à des colloques réunissant autour de la couleur des spécialistes de disciplines différentes, des physiciens, des chimistes, des linguistes, des sociologues, des historiens, des anthropologues, des peintres. Nous sommes tous très contents de nous retrouver pour parler de la couleur, mais au bout de 3 minutes, nous avons compris que nous ne parlons pas de la même chose. Chacun a sa définition et c'est parfois difficile d'échanger, notamment entre les sciences humaines et les sciences dures. Donc on peut définir la couleur de la même façon. Moi je tiens des propos d'historien, mais un chimiste assis devant ce même micro aurait sans doute un discours assez différent et tout aussi légitime bien sûr.
Sa définition varie donc selon les disciplines, selon les points.
Elle varie selon les disciplines, elle a varié au fil de l'histoire. Moi qui suis historien, je le sais bien. La couleur a d'abord été définie plutôt comme une matière, puis à partir d'Aristote, comme une matière et une lumière, la rencontre des deux. Au Moyen-Âge, la définition lumière, fragment de la lumière, déformation de la lumière, c'est la définition qui domine. Puis à partir de l'époque moderne, plutôt après Newton, non seulement une matière et surtout une lumière, mais aussi une sensation, la sensation d'un élément coloré reçu par l'œil et transmis au cerveau. Voilà donc 3 définitions, 3 champs d'enquête, matière, lumière, sensation. Mais je dirais qu'après 40 ans ou plus de travail sur la couleur, j'en ajouterai une autre et je dirais qu'avant d'être tout cela, la couleur, c'est une idée, c'est une notion, c'est un concept relativement abstrait. J'en veux pour preuve le fait que nous parlons ici devant un micro des couleurs, nos auditeurs ne les voient pas, or ça ne les gêne aucunement. On peut parler des couleurs sans les montrer. Ça veut dire que la couleur n'a pas besoin d'être matérialisée pour exister.
J'ai appris en lisant les couleurs de nos souvenirs que les Grecs, par exemple, donnaient une définition du bleu qui n'était pas forcément celle que nous donnerions nous.
Oui, c'est pas ça, tant c'est... qu'ils définissaient mal le bleu, c'est que...
Qu'est-ce qu'ils voyaient ou que voyaient-ils que nous ne voyons pas ? Ou alors voyons-nous la même chose à...
Le problème est là,
c'est-à-dire... Qu'est-ce que le bleu
a cette... Les Grecs anciens nomment rarement le bleu. Et quand ils le nomment, ils l'appliquent à des éléments ou des êtres vivants ou des objets qui pour nous ne sont pas bleus. Donc philologues, neurologues, historiens se sont demandé dans la seconde moitié du 19e siècle si les Grecs, et avec eux les Romains, parce que c'est pas très différent dans la Rome antique, étaient ou non aveugles au bleu. Il y a eu des débats passionnés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Finalement, on s'est rendu compte que ces chercheurs, nos prédécesseurs, se trompaient un peu en confondant le fait de nommer une couleur et le fait de la voir ou de la percevoir. Ça n'est pas la même chose. Et que les Grecs ne nomment pas souvent le bleu ne veut pas dire qu'ils ne voient pas le bleu. Simplement, cela veut dire qu'ils n'ont pas occasion de nommer le bleu parce que le bleu occupe une place très discrète dans la vie sociale, dans la vie religieuse, dans le monde des emblèmes et des symboles, dans la Grèce antique, mais aussi, et peut-être plus encore d'ailleurs, dans la Rome antique.
Comment vous est venue l'idée d'écrire sur le souvenir que nous avons des couleurs ?
Cette idée m'est venue avec l'âge, c'est-à-dire que j'arrive à un âge où le chercheur, l'historien, a envie de se raconter. Je ne suis pas le premier à le faire et ces dernières années, d'autres historiens, de la génération qui m'a précédé, ont écrit des essais d'égo-histoire.
Sans doute, j'ai été tenté. Un grand courant de l'historiographie, oui.
Et donc, j'ai été tenté de faire un peu la même chose, mais d'une manière relativement retenue, pas narcissique, et en prenant pour fil conducteur mon champ d'objets de recherche principale, la couleur. Donc, ce livre, c'est à la fois une autobiographie par la couleur, un journal chromatique, je crois que c'est l'expression qui convient, mais c'est aussi une tentative pour cerner les rapports entre couleur et société depuis l'époque où j'étais petit enfant, au début des années 50, jusqu'à aujourd'hui.
Oh, c'est fait aussi avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul. C'est un vrai plaisir pour le lecteur. Hein. Ce n'est pas un livre d'histoire.
Oui, j'ai voulu
trop
écrire un livre.
Ardu, je veux dire, on y prend un vrai plaisir de lecteur parce que justement, il y a ces touches d'autobiographie et qu'on voyage avec les couleurs.
Voilà, donc c'est un livre en partie autobiographique. J'ai voulu l'écrire différemment de mes livres savants ou demi-savants précédents. Donc en effet, il a peut-être plus de sensibilité, plus d'humour, plus de portée concernant tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi la formule, en l'empruntant à Nerval, donc les couleurs de nos souvenirs et non pas de mes souvenirs, parce que j'associe ma génération à ce que je raconte. Tout le monde a plus ou moins vécu les témoignages ou les historiettes que je mets en scène dans ce livre.
Exactement. Alors, puisque vous parlez de ça, comment vous avez travaillé pour justement, vous êtes appuyé sur quel type de document? Vous parlez de choses qui sont communes à toute votre génération. Je pense aux pantalons rouges que vous évoquez de vos camarades féminines au lycée ou au beige Mitterrand, une expression littéraire que vous nous expliquez dans ce livre. Alors, comment vous avez travaillé pour les choisir?
Oui, j'en avais beaucoup trop, bien sûr. Donc, j'ai croisé des souvenirs, des observations, des anecdotes personnelles faisant partie de ma propre biographie, liée surtout à ma petite enfance, mon adolescence, ma carrière de jeune homme, si je puis dire. J'ai croisé tout cela avec mon expérience de spécialiste de la couleur pour essayer à la fois de me raconter et que ce que je disais ait une portée plus générale et puisse aider à mieux comprendre la place de la couleur dans nos sociétés contemporaines, surtout en France et en Europe occidentale. Mais j'ai dû faire un choix, bien sûr, donc j'ai essayé de respecter à la fois un équilibre dans le temps, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, un équilibre par couleur, au moins les 6 couleurs principales, le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le blanc et le noir. C'est peut-être le jaune qui est un peu le parent pauvre dans mon livre, mais ça n'est pas sans raison. Dans notre vie quotidienne, le jaune aujourd'hui occupe une place relativement discrète. Et puis j'ai essayé aussi d'aborder un peu tous les problèmes que pose la couleur sur les différents terrains où on peut enquêter à son sujet. C'est pour ça que je distingue à la fois le vêtement, la vie quotidienne, le monde du sport, les emblèmes et les symboles, les croyances et les superstitions, le vocabulaire, la publicité. Bref, tout ce qui fait que la vie en société passe à la moulinette de la couleur.
Alors, faire une histoire comme ça sur 60 ans de la couleur, c'est ambitieux, bien sûr. Mais quels sont les changements et les permanences que vous avez relevés sur la façon dont notre société appréhende les couleurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve?
Oui, il y a à la fois des changements et des permanences. Ces permanences, d'ailleurs, sont plus nombreuses qu'on le croit. Il y a d'abord tous les codes sociaux où la couleur en tant qu'étiquette, emblème, armoirie, drapeau, tout cela vient de loin. Il y a des permanences qu'on attend moins. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps en visitant à Londres une exposition sur le métro londonien, l'histoire du métro à Londres. Et à partir des années 1940, l'exposition montrait déjà des photographies en couleur. On voyait les voyageurs sur les quais, dans les rames, au guichet, et leurs vêtements surtout. Eh bien, que l'on soit en 1950, en 1970, en 90, en 2000 ou 2010, ces voyageurs sont toujours habillés dans les mêmes couleurs. Du gris, du bleu marine, du noir, du blanc, du beige, du brun. Pas de couleurs vives, pas de vert, pas de rouge, pas de jaune. Je suis sûr qu'une exposition sur l'histoire du métro à Paris aurait donné exactement les mêmes résultats. Donc, contrairement à une idée reçue et contrairement au discours de mode, bien sûr, nous portons toujours sur nous, au moins depuis 50 ans, les mêmes couleurs de vêtements.
Ça, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, on a l'impression, nous, du changement. Et le noir, le gris, le beige, comme vous venez de le dire, le marron, semblent dominer nos garde-robes. Vous avez beaucoup écrit sur le vêtement, sur les rayures, sur les tissus. Moi, je voulais vous demander, pourquoi est-ce qu'on a comme ça des garde-robes plus, non pas plus ternes, mais dans ces dominantes-là, ça semble emporter ici en Europe, puisque vous disiez qu'on aurait fait la même expérience avec le métro parisien, ben on aurait eu à peu près les mêmes dominantes. Et pourquoi est-ce qu'on a des couleurs beaucoup plus vives dans d'autres aires géographiques? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait cette dominante-là?
Les raisons sont variées. Elles sont très au climat, à la latitude, à la géographie, aux traditions culturelles, à la disponibilité des pigments et des colorants. Aux Indes, par exemple, où l'on voit beaucoup de couleurs vives, Les pigments et les colorants sont très faciles d'accès et peuvent être traités presque directement par des teinturiers amateurs, en quelque sorte, en Occident.
Vous pensez que on l'explique comme ça, par la vraiment
pas
la...
Pas seulement. Non, c'est une des causes. Mais il y a aussi donc les habitudes culturelles, religieuses, les codes sociaux autour de la couleur. En Europe, la couleur est moralisée très tôt, à la fois du point de vue social et du point de vue religieux. Il y a un grand courant qui moralise la couleur à la fin du Moyen-Âge, qui prend des décrets vestimentaires, des lois somptuaires. La réforme protestante reprend à très grande échelle ces pratiques morales, ce discours moral, et commence à distinguer au XVIe siècle des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Non seulement pour un bon chrétien, mais aussi pour un bon citoyen. Les couleurs honnêtes sont le blanc, le noir, le gris, le brun, le bleu.
D'où peut-être...
Voilà, c'est celles qui sont dominantes aujourd'hui, parce que la contre-réforme catholique, sur ce plan-là, a repris les valeurs protestantes. Il y a l'idée toujours en Europe occidentale, enfin au sein du christianisme occidental, que le vêtement est toujours signe de péché. Adam et Ève étaient nus au paradis terrestre, ils ont péché et comme signe de leur faute, on les a expulsés du paradis et remis un vêtement à la sortie. Donc il y a toujours l'idée que vouloir se faire remarquer par le vêtement, c'est quand même pas très honnête, c'est indécent. C'est une faute, et contrairement à une idée reçue que les magazines de mode veulent nous faire croire, l'immense majorité de la population ne cherche pas à se faire remarquer par le vêtement, mais, pour différentes raisons, à se faire relativement discret. Or, quand on porte des couleurs vives, évidemment, on fait un écart, ça se remarque, c'est presque une violence qui est faite aux autres. En outre, personne ne change sa garde-robe tout d'un coup, donc on rachète ce que l'on possède déjà du point de vue chromatique. Bref, les modes changent peu, il y a des circonstances ou des lieux où on est plus en couleur, sur les terrains de sport, à la plage, sur les pistes de ski, lors de fêtes, X ou Y.
Vous vous êtes étonné dans le livre là, de la couleur rose qui a fait son apparition sur les
maillots
les
des rugbymen.
Oui, c'est une, ça, c'est
à
ça,
partir
c'est...
des années 2000, quelques grands clubs, dont le Stade français à Paris en rugby, ont adopté un maillot rose qui ne s'était jamais vu sur les terrains de rugby. Et on sent bien l'opération publicitaire qui est derrière et l'envie de faire les malins, en quelque sorte. Ce qui m'a le plus fait rire, moi, c'est que le sponsor principal de cette équipe qui joue en rose, c'est la firme de téléphonie Orange. Donc le maillot est rose, avec en lettres énormes dans le dos et sur le ventre, le mot orange, voilà qui intriguera nos archéologues à venir.
Vous parliez de ces permanences de certaines couleurs sur ces 60 ans. Quels sont les changements alors là majeurs que vous avez observés ?
Le changement majeur est peut-être que la couleur est d'une part plus facile d'accès pour le commun des mortels. Aujourd'hui, et ça n'est pas neuf, depuis une trentaine d'années, dès l'école maternelle, un jeune enfant reçoit une boîte de feutre avec 30 ou 50 nuances différentes. Par là même, il n'apprend plus à mélanger deux couleurs pour en faire une troisième. Donc il y a une perte de créativité, mais un accès beaucoup plus facile. Dans notre vie quotidienne, la couleur, et même les couleurs vives, même si elles n'atteignent pas ce que l'on voit sur d'autres continents, sont plus présentes que quand moi j'étais enfant, dans le spectacle de la rue, par exemple. Et puis la photographie en couleur, la télévision, le cinéma, on multipliait les images en couleur. L'affiche publicitaire aussi, qui joue un rôle très important. Dans mon histoire personnelle, je vois un changement assez rapide. À la fin des années 50, peut-être, et j'étais plus attentif, j'avais 10-11 ans à ce moment-là, à cause des affiches publicitaires dans la rue et dans le métro qui étaient beaucoup plus colorées, me semble-t-il, que précédemment. Et puis, il y a des changements plus anecdotiques ou que d'autres ne remarquent pas, mais auxquels moi je suis sensible. Je donne un exemple. Quand j'étais enfant et encore adolescent, la plupart des rouges que l'on voyait dans la vie quotidienne, dans le spectacle de la rue, c'était des rouges un peu orangés, un peu vermillons. Aujourd'hui, quand on se promène dans la rue, qu'on remarque ce qui est rouge, c'est presque toujours des rouges violacés, des rouges qui tirent vers le rose ou vers le violet. Je suis sensible parce que ce sont des nuances que je n'aime pas du tout.
Est-ce qu'il y a un code universel des couleurs ?
Moi, je n'y crois pas. Je pense que les problèmes de la couleur, et c'est même le résultat auquel je tiens le plus après 4 décennies de recherche, je pense que la couleur, c'est quelque chose de culturel, d'étroitement culturel, et qu'on ne peut pas jongler avec les cultures, et à l'intérieur d'une culture, avec les époques. Alors bien sûr, on peut observer quelques ressemblances, et on va se cristalliser sur ces ressemblances, mais l'océan des différences est considérable. Même si, aujourd'hui, le sport, la télévision, les grandes firmes multinationales ont tendance à uniformiser à l'échelle de la planète un certain nombre de codes et de pratiques, les différences restent quand même considérables. On le voit bien d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, dans les rapports que les hommes et les femmes entretiennent ici ou là avec la couleur. Et si on se limite à l'Europe occidentale, moi qui suis historien, je vois un très grand nombre de changements, parfois très très importants. Par exemple, le bleu qui pour nous est une couleur froide et qui dans nos salles de bain emblématise le robinet d'eau froide, eh bien pendant des siècles et des siècles a été pensé et perçu en Occident comme une couleur chaude. Au Moyen-Âge, c'est la plus chaude de toutes les couleurs. Et Goethe encore, dans son traité des couleurs, au début du XIXe siècle, présente le bleu comme une couleur chaude et le jaune comme relativement froid, donc quelque chose de très différent de ce sur quoi nous vivons.
À votre avis, donc, la globalisation change peu les choses sur...
Elle les change, mais très lentement. Le code de la route, par exemple, avec ses panneaux de signalisation, qui sont de véritables armoiries. Moi, j'ai étudié l'héritage héraldique dans les panneaux du code de la route. C'est un système complètement européen au départ, le code de la route, qui s'étend à d'autres cultures et à d'autres continents. Aujourd'hui, il est quasiment universel à l'échelle de la planète et il a remplacé d'autres codes, d'autres systèmes de signes qui existaient ici ou là. Donc voilà un exemple où signes et couleurs nés en Europe et issus pour une part de l'héraldique médiévale fonctionnent à l'échelle de la planète entière. Mais il n'y a pas tellement de domaines. En général, c'est plutôt le contraire. Les différences culturelles peuvent être très nombreuses.
Dans le livre que pendant plusieurs décennies, pendant longtemps, les designers ont conçu des objets du quotidien dans des couleurs neutres. Pour quelles raisons ? Et par exemple, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, justement, les objets du quotidien sont plus colorés qu'autrefois ?
Probablement parce qu'on s'est débarrassé des limites morales que l'on donnait au fait de répandre la couleur. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand on a commencé à produire des objets de consommation de masse en très très grand nombre, la chimie des colorants aurait permis de faire banalement une large palette, hein, toutes les couleurs de la gamme, presque. Mais les morales capitalistes, qui étaient presque toutes d'ailleurs des morales protestantes, le grand capitalisme dans la seconde moitié du XIXe siècle, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, est protestant. Et donc, pour des raisons morales, les premiers appareils ménagers, les premiers stylos, les premières voitures, les premiers téléphones, les premières machines à écrire et tout ça, ça s'est inscrit dans une gamme noir-gris-blanc parce que c'était plus vertueux que des couleurs vives qu'on répandrait comme cela à très grande échelle. Ça aurait eu quelque chose d'indécent. Et pour arriver à la couleur proprement dite, pour n'importe quel objet, il faut attendre le milieu du XXe siècle et même la seconde moitié du XXe siècle. Il y a des résistances, pas techniques, un peu financières, mais surtout morales.
Et que pensez-vous alors aujourd'hui, par exemple, de cette couleur rose très vive dont on fait les jouets des petites filles, leur cartable, leur garde-robe, où là, tout d'un coup, une couleur envahit, j'allais dire, l'espace là, de l'enfance, mais un espace sexué.
Oui, c'est surprenant. J'y suis assez attentif parce que je n'aime pas du tout le rose, et spécialement cette nuance de rose abominable dont on fabrique des objets bon marché, spécialement destinés aux petites filles. La pratique vestimentaire qui consiste à habiller les filles de rose et les petits garçons de bleu ciel s'observe à partir des années 1840, d'abord dans l'Europe protestante, puis dans l'Europe catholique. C'est la déclinaison d'un rouge féminin et d'un bleu masculin, devenu donc rose et bleu ciel au niveau de l'enfance. C'est d'ailleurs le contraire des pratiques anciennes de la couleur, pour lesquelles le rouge était plutôt masculin, viril, guerrier, et le bleu féminin, comme le manteau de la Vierge. Donc le code s'est inversé entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Pourquoi rose pour les petites filles et bleu ciel pour les garçons? On peut dater, on peut observer, on peut constater qu'il y a des décennies où on y est moins attentif et d'autres davantage. Ça débouche donc sur ce rose pour les petites filles que je réprouve totalement aujourd'hui. D'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, le rose est une des trois couleurs les plus détestées, non seulement en France, mais partout dans les pays voisins. Les trois couleurs les plus mal aimées, si je puis dire, sont le brun, puis le violet, puis le rose. Je m'étonne que les fabricants de jouets et de vêtements n'en tiennent pas compte et continuent à vouloir nous déverser, surtout sur des objets bon marché, ce rose qui n'est pas très séduisant pour l'œil.
Qui envahit les objets quotidiens.
Oui, d'autant que...
Je parlais des cartables, mais ça va au stylo, enfin c'est
ça,
quand
ça
même...
va très loin, et en plus nous sommes dans une période où cela est en train de s'accentuer. En tant qu'historien, je sais que ça ne durera pas. Si j'étais un créateur, moi j'investirais dans la couleur jaune, qui occupe peu de place dans notre vie quotidienne, et ce depuis longtemps. Il me semble qu'on pourrait, d'une part, diversifier les jaunes, et de l'autre, au moins pour l'enfance, pour les jouets, pour le ludique et le festif, investir davantage dans cette couleur.
Pourquoi alors l'Occident, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi l'Occident dénigre cette couleur jaune ?
C'est une histoire de longue durée. Chez les Grecs et chez les Romains, au contraire, et même dans la Bible, le jaune est une couleur valorisée dans la vie religieuse et dans la vie sociale. Parfois, c'est une couleur sacrée. Mais le jaune n'a pas de chance. Toutes les couleurs sont ambivalentes et ont leurs bons et leurs mauvais aspects. Peut-être sous l'influence des mondes germaniques, en tout cas au cœur du Moyen Âge, le jaune se dédouble. Il y a l'or. Et l'or prend sur lui tous les bons aspects de la couleur jaune. Chaleur, richesse, pouvoir, etc. Et pour le jaune stricto sensu, il ne reste que les mauvais aspects de la couleur. Le mensonge, la fausseté, la trahison, la maladie. Et au fond, on vit encore sur cet héritage. La faute en revient à l'or, qui, à tout prix, du côté des aspects positifs de la symbolique des couleurs. Et ce pauvre jaune, lui, est un mal-aimé. Même le maillot jaune du Tour de France, qui est un petit peu fait pour revaloriser la couleur, n'a pas pu aller jusqu'au bout.
Alors, certaines décennies semblent attacher une couleur. Peut-être que je me trompe, mais je pense aux années 70, à la couleur orange. Est-ce que vous, sur ces 60 ans, on peut périodiser comme ça une couleur pour une décennie ou plusieurs ?
Oui, on peut distinguer des cycles de longue durée, c'est ce que j'étudie en historien, et des cycles de courte durée. Les cycles de longue durée étant entrecoupés de cycles de courte durée qui intéresseront peut-être davantage le sociologue. Et alors, dans les années 70, en effet, partout en Europe occidentale, on a eu la tentation, un peu naïve, d'égayer la vie par la couleur. Et alors, on s'est dit qu'il fallait davantage de couleurs vives dans le spectacle de la vie quotidienne. Et on a mis en scène des orangés, des verts pommes, des marrons clairs, quelques roses. C'est l'orange qui domine, je crois, dans cette palette, avec la naissance de la carte orange, des trains corail, des grands aplats de couleur orange dans des quartiers suburbains très défavorisés, etc. Aujourd'hui, on se demande comment on a pu faire de telles choses aussi abominables. Les cuisines, je me souviens, étaient orangées, jaunes, vert pomme, avec des appareils ménagers marron et vert. Ça me semble, à moi en tout cas aujourd'hui, abominable, mais j'ai probablement vécu là-dedans sans m'en rendre compte. Ça n'a pas duré, heureusement. On s'aperçoit d'ailleurs que quand architectes ou urbanistes ont l'idée de mettre de la couleur vive dans un quartier défavorisé, pensant que ça va égayer la vie des habitants, les 10 habitants, au bout de 8 jours, parfois de 3 jours, redemandent du gris et du blanc. Ça finit par être insupportable, ces grands aplats de couleur vive.
Les structures urbaines restaient grises. Il y a peu d'artistes qui ont travaillé sur la colorisation des murs, des bâtiments. Peut-être que les choses vont changer. Là aussi, on reste dans des permanences.
On reste dans des permanences parce qu'on y est habitué. Mais c'est la même chose dans nos appartements. Les touches de couleurs très vives existent, mais ce sont des touches. Ce ne sont pas les murs qui sont peints en rouge vif ou en jaune hurlant. Si c'était le cas, nous ne pourrions pas y vivre, nous autres occidentaux.
D'où viennent les écarts chromatiques entre le souvenir qu'on peut avoir d'une couleur et puis la couleur de l'objet en question ou du vêtement ou de la personne ?
Oui, il y a des écarts. Moi, j'ai dans l'idée, en tout cas dans mon cas personnel, que mes souvenirs sont enfouis dans une zone un peu lointaine et qu'ils n'ont pas de couleur. Ils ne sont ni en couleur ni en noir et blanc, ils sont achromes en quelque sorte. Et c'est le fait de les convoquer qui leur donne des couleurs. Et alors, parfois, ils ont les vraies couleurs de ce qui a existé. Parfois, ma mémoire ou mon imagination transforme ces couleurs. Les deux cas existent, j'en donne quelques exemples dans le livre. Ça peut concerner des images colorées, ça peut concerner des phrases avec des termes de couleurs que j'ai modifiés sans m'en rendre compte. Chez moi, parfois, l'imagination est plus forte que la mémoire. Un cas fréquent, c'est quand je voyage. Je suis de ces personnes pour qui la préparation du voyage fait partie du voyage. Donc, je consacre pas mal de temps à me préparer. Je vais découvrir une ville. Je ne connais pas. J'imagine cette ville d'après mes lectures, d'après des photos, d'après ce qu'on a dit autour de moi, d'après le nom de la ville, qui a une espèce de musique colorée. Donc, je me fais une certaine image en couleur de cette ville. Je vais sur place. Je constate que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais pensé. Même très différent parfois, je corrige, mais quand je suis revenu chez moi, à Paris, l'image que je garde, c'est celle que je m'étais forgée avant de partir. C'est pas celle que j'ai corrigée sur place. Ça veut dire que l'imagination est beaucoup plus forte que la mémoire et encore plus que l'observation.
Puisque nous avons un spécialiste des couleurs avec nous aujourd'hui, est-ce que je peux vous demander de nous décrypter le vert des académiciens ?
Oui, enfin, malgré une bibliographie... importante, les choses ne sont pas très claires. Je regrette que mon ami Bruno Neveu, mon confrère et ami Bruno Neveu, qui était membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui avait commencé un travail sur les couleurs des habits et uniformes des grandes institutions, des grands corps de l'État, soit disparu trop tôt pour le mener à son terme, mais l'habit à l'Institut est plus noir que vert. Quand on dit que vert est la couleur de l'Institut, c'est en tant qu'institution, mais l'habit lui-même est à dominante noire, noire et verte avec des parements d'or, etc. C'est, selon la tradition, il y a plusieurs explications, c'est une couleur choisie soit sous le directoire, soit au tout début du consulat. C'était la couleur préférée de Bonaparte, devenu plus tard Napoléon. Est-ce que cela a joué ? Je n'en suis pas sûr, parce que quand on regarde l'Ancien Régime, on s'aperçoit que souvent les corps savants sont associés à la couleur verte. C'est déjà vrai à la fin du Moyen-Âge, ça l'est plus encore au XVIIe et XVIIIe siècle. Et ce vert du savoir, du monde savant, c'est souvent celui de la médecine, qui est une science à base de plantes, ou en tout cas où la végétation domine. Et je crois qu'on peut faire un lien entre ce vert de la pharmacopée, ce vert des croix vertes des pharmacies, le vert des uniformes du monde savant et peut-être le vert de l'Institut.
Je n'avais pas pensé à tout ça, à cette filiation entre le vert de la végétation et de la médecine qui passe comme ça par le monde savant.
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse, c'est une belle hypothèse. Michel Pastoureau, pour terminer, quelle serait votre définition personnelle de la couleur ?
J'insisterai sur le fait que la couleur est quelque chose d'indéfinissable et... J'aime beaucoup, et je répète dans le livre, je crois, deux fois, trois fois, une phrase du grand philosophe Ludwig Wittgenstein, qui est peut-être la phrase la plus importante qu'on ait jamais écrite sur la couleur. Il explique, si on nous demande de montrer des objets qui sont de couleur verte, de couleur rouge, de couleur noire, nous n'avons pas de difficulté pour montrer des objets qui sont de telle couleur, mais, dit-il, notre capacité à expliquer le sens de ces mots, vert, rouge, bleu, noir, ne va pas plus loin. Donc on peut montrer des choses qui sont vertes, rouges, bleues ou jaunes, mais on ne peut pas en dire plus pour définir ces colorations. Alors un physicien, bien sûr, dira « mais le rouge, c'est la zone qui se situe entre telle et telle longueur d'onde dans le découpage du spectre ». C'est vrai du point de vue de la physique, mais pour les sciences humaines, ça n'apporte absolument rien.
La couleur verte, expliquez-vous dans ce livre, a été une couleur difficile à stabiliser. Et du coup, elle a été perçue de façon un peu particulière en Europe.
Oui, en Europe, pendant longtemps, on n'avait pas trop de mal à fabriquer le vert, mais on avait du mal à le fixer, aussi bien en teinture qu'en peinture. Le vert était instable. D'ailleurs, jusqu'à des dates relativement récentes, 16e, 17e siècle, on ne mélangeait pas de jaune et de bleu pour faire de vert. Le vert était pensé près du bleu, mais très loin du jaune. Donc on n'avait pas idée qu'il y avait un palier à mi-chemin entre jaune et bleu qui était la couleur verte. On savait fabriquer du vert, on ne savait pas le fixer. Et donc le vert était instable et par là même, on l'a associé symboliquement à tout ce qui était instable. l'enfance, l'amour, l'espérance, la chance, l'argent, la fortune, le jeu, le destin. Tout ça, ça tourne comme la roue de la fortune. Et la couleur verte a été associée à ces différentes fonctions, aspects. Par exemple, les tapis de jeu sont déjà de couleur verte à Venise au XVe siècle. Ils le sont restés. La langue verte, c'est la langue des joueurs de cartes. Sur une surface verte se déroule un destin, un enjeu. C'est vrai des sordalies à l'époque féodale. C'est vrai aujourd'hui des tapis verts, des conseils d'administration des entreprises où se décide le destin des travailleurs. C'est vrai des compétitions sportives qui se déroulent sur une surface verte le plus souvent. C'est l'herbe, bien sûr, mais les tables de ping-pong pourraient très bien ne pas être vertes. Or, elles sont vertes parce qu'il y a un enjeu, une partie. Donc, le vert, c'est la couleur du destin, dirais-je, du point de vue symbolique, avant même d'être la couleur de la nature. D'ailleurs, l'idée qui associe la nature et la couleur verte, c'est une idée assez moderne parce que la nature, pendant très longtemps, ce n'est pas la végétation. Ce sont les quatre éléments. C'est l'eau, la terre, l'air et le feu. L'eau est verte, certes, pendant longtemps, pas bleue, verte. L'air est blanc, la terre est noire et le feu est rouge. Donc la nature a quatre couleurs. Et puis lentement, entre la fin du Moyen-Âge et l'époque romantique, l'idée nouvelle se fait d'associer la nature à la végétation. La végétation étant verte, la nature, peu à peu, devient verte. À l'époque romantique, c'est une idée qui est déjà bien installée.
Merci Michel Pastoureau pour vos explications et ce livre sur les couleurs de nos souvenirs publié au Seuil dans la collection La Librairie du XXIe siècle, publié en 2010, en novembre 2010, et pour lequel vous avez reçu le prix de l'essai du prix Médicis 2010 aussi.
Merci de votre accueil.